Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et rebonjour Émilie Chaudet.
L'Union européenne et les droits de douane dans une nouvelle Europe aujourd'hui.
Voilà, dans une Europe à 27 après le départ du Royaume-Uni. Notre invité Lionel Escafre, bonjour.
Bonjour Thierry Garcin.
Vous êtes passé à l'Université d'Angers. Alors on le sait, le libre-échange est le premier stade des relations économiques bi- ou multilatérales. Plus ambitieux sont l'union douanière, puis le marché commun et a fortiori le marché unique qui régit l'Union européenne depuis 1993. Alors ce libre-échange, par principe, lève les barrières douanières, en tout cas des droits de douane minimaux et harmonise les normes au plus 10 ans ou au moins 10 ans, c'est selon. Et puis cela nécessite un traité de libre-échange de longues années de négociations. On l'a vu d'ailleurs avec le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis qui avait débuté en 2013 et qui sont pour ainsi dire suspendus depuis l'élection de Donald Trump. Et puis à la question du Brexit. Alors déjà, cette union douanière, elle avait été donc mise en œuvre en 68, c'est-à-dire 11 ans après le traité de Rome.
Voilà, l'union douanière a été mis en œuvre en 1968 à l'initiative en fait du Benelux, hein, puisqu'à l'époque c'est notamment le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas qui souhaitaient impérativement que leur adhésion au marché commun puisse favoriser la libéralisation des échanges au sein de l'Union européenne. Il faut savoir que cette demande existait déjà, enfin le Benelux avait déjà cette expérience, puisque dès 1946 et 1947, il y avait au sein du Benelux cette disparition des droits de douane. Alors l'union douanière, qu'est-ce que c'est ? Ben, l'union douanière, c'est tout simplement prévoir une douane commune pour l'ensemble des pays européens. Des pays européens au sens territoire européen, puisque les territoires outre-mer ou les départements outre-mer ont bien souvent des dispositions douanières bien particulières. Donc on parle vraiment de l'Europe au sens géographique. Au niveau de l'Union européenne, en interne, il y a effectivement disparition de la totalité des douanes, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contrôle douanier au niveau européen, bien au contraire, puisque la disparition en fait des ressources liées au contrôle douanier à l'intérieur de l'Union européenne, finalement, est destinée à développer au contraire une douane plus sévère et plus rigoureuse pour l'ensemble de l'espace économique européen.
Alors pourquoi parler, je crois que vous voulez introduire la notion ou la question de Schengen dans cette affaire ?
En fait, l'union douanière, finalement, repose quelque part sur deux piliers. Un premier pilier qui est effectivement les accords de Schengen, qui datent de 84-85 et qui, en réalité, permettent la liberté de circulation des personnes. C'est important parce que l'économie et le développement économique de l'Union européenne ne peut se concevoir sans, finalement, cette libéralisation. Et il faut savoir que Schengen, qui est aujourd'hui adopté par 26 États, puisque l'Irlande et le Royaume-Uni, même si le Royaume-Uni est dans un contexte de Brexit, le Royaume-Uni reste pour l'instant membre de l'Union européenne, n'a jamais adopté l'espace Schengen. Et cet espace, en fait, a vocation à favoriser quelque part la circulation, les matières grises et l'innovation, finalement, technique de recherche au sein de l'Union européenne. Donc, un contributeur important à l'économie. Et deuxième approche, l'union douanière, qui est en fait et qui a volonté à positionner l'Union européenne dans le monde comme étant, certes, une zone de libre-échange, mais aussi une zone d'exportation et d'importation de matières plus aisée. Aujourd'hui, les 28 États sont membres de cette union douanière, permettent en fait de favoriser à la fois cette libéralisation des échanges par rapport à un certain nombre de pays, puisque globalement, la taxe douanière est de l'ordre d'1,2%,
en moyenne,
ce qui est finalement très faible. Donc l'Union européenne fait et a toujours fait le pari de la participation avec l'OMC du marché, je dirais, international, commercial, libre-échange. Pour autant, les douanes se sont beaucoup orientées sur la lutte contre le trafic illégal, sur le blanchiment, sur le contrôle fiscal. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, on a plutôt une union douanière qui s'oriente vers des axes qui sont la lutte contre la circulation des déchets, on a une douane qui lutte contre la fraude fiscale, on a une douane qui lutte contre la criminalité organisée, contre le financement du terrorisme. Donc on est plutôt sur cette orientation-là et avec une volonté de favoriser le commerce international.
Alors Lionel Escafre, d'ailleurs pour la petite histoire, il y a un 29e État qui a une union douanière avec l'Union européenne, c'est la Turquie depuis 1995-1996,
oui,
mais c'est un autre débat. Et, donc,
non mais c'est un débat important, la Turquie,
c'est le seul pays
dans sa
qui a...
volonté d'adhésion à l'époque à l'Union européenne, un des arguments était de participer à l'union douanière. Et je rebondis sur votre propos, parce qu'à travers cela veut dire que l'union douanière est aussi évidemment un message vis-à-vis du monde, puisque on a des traités aujourd'hui entre l'Union européenne, le Canada, l'Union européenne et les États-Unis qui sont pour certains suspendus ou pour d'autres en train d'être mis en place. Je parle du Canada, c'est lié bien évidemment avec à l'existence même de l'union douanière.
Alors très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, l'Union européenne aussi, ce sont de nombreuses relations sous forme de traités de libre-échange, souvent avec des pays proches ou lointains, mais tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Je pense, d'ailleurs, je voyais ça hier avec la Corée du Sud, on en a un depuis 2011, sauf erreur.
Oui, tout à fait, absolument. Alors il y a la Corée du Sud, bon, il y a le Canada qui est en train d'être mis en place, comme je le disais. L'Union européenne, les traités sont suspendus. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Union européenne a plutôt orienté son souhait de coopération commerciale avec la zone asiatique. Je pense que l'Union européenne a bien compris que la zone pacifique était une zone totalement émergente d'un point de vue économique. Et effectivement, il y a des négociations qui sont assez bien abouties avec la Corée du Sud, avec Hong Kong et avec l'Inde. Donc l'Union européenne est très clairement aujourd'hui partenaire du développement du Pacifique à travers son modèle d'union douanière. Faut bien comprendre qu'avoir montrer qu'on a des taxes de douane relativement faible, c'est aussi montrer au monde qu'on est en capacité de jouer le jeu et donc par conséquent aussi de participer au commerce international et d'améliorer les exportations.
Alors en ce qui concerne le rôle des citoyens dans cette affaire-là,
L'union douanière a pris une position importante depuis 2014 et aussi est confirmée en 2015 avec ce qu'on appelle le projet douane 2020. Qui a été transposé d'ailleurs en France avec le projet douane 2018, qui vise effectivement à permettre à ce que l'union douanière soit un schéma de protection du citoyen sur, par exemple, des matières dangereuses, sur les médicaments, sur le trafic notamment aussi d'animaux ou de technologies liées à la contrefaçon. Donc tous ces aspects-là, effectivement, sont renforcés. Et donc on est plutôt dans un schéma où si les droits de douane sont bas, l'Union européenne s'oriente vers une rigueur sans cesse plus importante sur le contrôle des importations, notamment de matières illicites.
C'est pas une protection.
Pour protéger justement les citoyens.
C'est une autoprotection.
Exactement, c'est une autoprotection.
Alors vraiment, on n'a pas le temps d'en parler, mais juste évoquer le Brexit, puisqu'il va y avoir des droits de douane au détriment évidemment du Royaume-Uni de la part de Bruxelles.
Bon, alors le Brexit, la question elle est très simple, ou la réponse est très simple. Il y a deux axes. Premier axe, le Royaume-Uni décide de négocier directement avec l'Union européenne et conclut un accord à l'image de ce qui est fait par la Norvège dans le cadre de l'espace économique européen.
Un accord bilatéral.
Bilatéral, mais ça veut dire que dans ces cas-là, le Royaume-Uni continue à contribuer au budget européen. Quote-part à peu près de l'ordre de 13%, avec un montant de l'ordre de 30 milliards d'euros.
Ils y sont très, voilà. Bien entendu.
Donc ça veut dire finalement ils sont sortis, mais ils restent. Ou alors, on est dans du multilatéralisme, et dans ces cas-là, ça veut dire que le Royaume-Uni, mais je ne pense pas qu'on ira dans cette voie, négocie avec chaque État membre. Éventuellement envisageable dans les faits.
Une chose très importante, et heureusement la Commission européenne a dit il y a une première période des négociations qui s'ouvre en ce moment, ces mois-ci, donc où on défait les liens entre Bruxelles et Londres, et puis il y a une seconde période où on refait les liens entre Bruxelles et Londres.
C'est exactement
ça. Ce qui paraît un principe de base.
C'est exactement ça.
C'est-à-dire qu'on fait. Ce que ne veut pas Madame May.
Oui, c'est exactement ça. On fait l'inventaire et après on voit comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, se remarier ou se refiancer.
Se refiancer, oui, on peut trouver un troisième mode, éventuellement conjugal ou extra-conjugal.
Ou extra-conjugal, je ne sais pas, tout dépend des ambitions des Britanniques.
Bien, écoutez, merci beaucoup Lionel Escaf, professeur à l'Université d'Angers. Franceculture.fr pour écouter l'émission, pour la télécharger. Et puis hier, on parlait justement de l'ALENA avec Christian Giraud, donc le libre-échange nord-américain, États-Unis, Canada, Mexique. Et donc on peut y renvoyer à l'émission d'hier et la réécouter.
Bien sûr, et on peut aussi annoncer le programme de demain. Il sera question des Philippines.
Oui, alors on s'éloigne un peu pendant cet intérêt entre les deux tours de la présidentielle. Heureusement, d'ailleurs, c'est très bien, on s'éloigne des questions directement politiques européenne. Donc les Philippines, le régime et ses oppositions évidemment naissantes compte tenu de la nature du régime et de la personnalité du président. Et ce sera notre invitée Sophie Boisseau-Durocher qui est chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.